Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, qui est mon frère.
En fait, ce que j'aurais voulu être un grand musicien de jazz, partir en tournée, jouer dans les salles pleines de monde, enregistrer en studio. J'aurais voulu être un grand pianiste de jazz, comme Fearlessment. Mais vous avez entendu comment je joue Bam Che Swing. Alors, au lieu de ça, je préfère vous proposer de passer la soirée en compagnie de tous ces noms prestigieux, Chet Baker, Charles Mingus, Bud Powell, Fearlessment, John Coltrane, Charlie Parker. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du jazz en 3h30, ça c'est sûr. Je vais plutôt vous raconter des histoires de jazz.
Parmi les nombreux créateurs du jazz, Miles Davis continue de fasciner par la capacité qu'il eut de se renouveler et de remettre en question son art. Absorbant les modes, dépassant les styles, il ne cessa de faire évoluer sa musique. Par-delà une personnalité éminemment complexe au destin romanesque, sa légende s'ancre dans ses métamorphoses successives qui furent autant de nouvelles voies ouvertes au développement du jazz.
Scientifiques du 20e siècle, les musiciens de jazz. Ce sont des mathématiciens dans l'espace, c'est la mécanique quantique à côté, c'est une espèce de poésie du pauvre.
Il y a des gens qui jouent d'un instrument et puis des gens qui jouent de la musique.
Miles Davis était contemporain de Louis Armstrong, qui continuait de jouer pendant que lui débutait et qui jouait pas du tout comme un cornichon, qui jouait dans tous les classes solaires de sa splendeur.
Donc Armstrong, c'est... Donc on a vraiment...
Non,
Vous êtes trompettiste, vous aimez à la folie les trompettistes qui vous ont précédé, Armstrong, Roy Eldridge, et pour autant, votre mission, c'est de faire autre chose qu'eux.
Louis Armstrong à Dizzy Gillespie, en passant par Charlie Parker, l'ère du swing fait danser l'Amérique. C'est dans ce contexte foisonnant qu'arrive Miles Davis. La popularité des big bands atteint son apogée à New York au milieu des années 30. Les grands orchestres attirent les foules au Cotton Club et au Savoy Ballroom.
On a une expression un peu plus retenue, j'ai l'impression. Pourquoi ? Parce que il y a du monde et tout, et puis jouer en big band, c'est assez physique. Enfin, j'ai l'impression que moi, avec mon expérience, j'en jouais moins de choses. Ou quand je voyais un solo, c'était vraiment très court. Hop, je reprenais ma place parce qu'il y a énormément de taf, quoi. Les mecs écrivaient beaucoup. Ellington écrivait beaucoup. Bézi, c'était peut-être plus rythmique, mais il fallait avoir une sacrée résistance.
Vous aviez des big bands, des grands orchestres comme Count Basie ou Duke Ellington qui faisaient danser 1000 ou 2000 personnes au Savoy, à l'Hôtel Savoy, à New York en 1939. C'était donc l'alibi. Mais des gens qui venaient écouter et apprécier, il n'y en avait pas tellement.
Thank you.
Il a eu pour moi, de mémoire, 1, 2, 3, 4 sonorités différentes. La première, avec cette technique un peu difficile, mais en jouant un blues très, très polymorphe, très bizarre, genre, au lieu d'avoir les notes... Tu vois, les notes vraiment du blues, la pinta un peu machin, évoluée. Il jouait sur le son et sur l'aspect d'attaque des sons. C'est ça son boulot au début, quoi. Et en fait, cette espèce de règle de son, il va l'appliquer plus tard en magnifiant cela avec Gil Evans.
La façon de passer d'expression extrêmement ténue à la limite du sifflet, donc justement la trompette avec sourdine, à des phrases vertigineuses qui retombent toujours pile sur les temps, sur les contretemps, mais qui sont très fulgurantes.
Donc on est entre, pour moi, hein, ça revient sur moi, classique et jazz. Puis après, on a un travail un peu plus sale, quoi. On commence à dans le quintet, à jouer entre une couleur plus ésotérique, avec une trompette. Et il joue presque bas comme ça. Chaque note est bluesée. C'est étonnant.
Il y a à la fois des moments de vélocité qui ne sont jamais identifiés comme la virtuosité des grands trompettistes, par exemple. Des moments de suavité, de douceur. Et puis des moments d'impact pur, des explosions et des implosions.
C'est riche. C'est pourtant la même personne. Mais sans schizophrénie aucune, le mec a réussi à vivre avec ses parties de lui en les transcendant du mieux qu'il pouvait, quoi, et avec les autres.
Jazz, c'est le contraire de ce que vous croyez. Et Miles, de ce point de vue-là, c'est constamment le contraire de ce qu'on croit de lui. le contraire du mal embouché, le contraire du despote, le contraire du défoncé qui joue de la trompette bouchée. Vous savez, si vous bouchez une trompette, elle sonne même pas. Mais qu'il ait inventé un son avec une sourdine, un monde, oui, ça, c'est autre chose.
Souvent, il se passait des choses ahurissantes. On écoutait les bandes et on se demandait comment ça avait pu se produire. C'était pas prévu à l'avance, mais c'était très spirituel.
L'effort d'arrachement à ceux à quoi ils étaient destinés. D'abord, ils étaient destinés à devenir des bêtes. Ensuite, ils étaient destinés à devenir des musiciens, pour ceux qui avaient cette chance-là. Et ceux qui avaient ce destin-là, ils étaient destinés à devenir des musiciens de jazz, au pire des sens du terme, c'est-à-dire vraiment dans une case, et je peux vous dire qu'elle n'était pas très glorieuse. Et de tout cela, ce qu'on peut citer, ce qu'on peut revendiquer, parce qu'ils sont aussi des leçons de liberté, de violence personnelle, de tout cela, ils sont sortis par la porte de droite, de gauche. C'est Houdini à répétition. C'est des prestidigitateurs.
C'est sous le label star de l'époque, Columbia, que Miles enregistre l'album Kind of Blue en 1959. L'influence de cet album sur le jazz, le rock et le classique a conduit les spécialistes de la musique à le reconnaître comme l'un des albums les plus influents de tous les temps.
John William Coltrane est né le 23 septembre 1926 en Caroline du Nord. Dans cette Amérique rurale, la religion permettait de supporter la pauvreté et la ségrégation. Coltrane découvre à l'église la musique. À 13 ans, John apprend la clarinette et le saxophone alto dans l'orchestre de sa paroisse. À 17 ans, il part à Philadelphie. Il travaille dans une raffinerie de sucre pour payer ses études au conservatoire. Deux ans plus tard, l'armée mobilise l'aspirant musicien dans l'orchestre de la marine américaine. À la fin de la guerre, il accompagne les vedettes du rhythm and blues et du blues, dont le chanteur saxophoniste Eddie Vinson. Il découvre le bebop, rencontre Charlie Parker. Dizzy Gillespie l'engage dans son grand orchestre. Au début des années 50, il approfondit ses connaissances musicales en jouant avec deux virtuoses du saxophone alto, Earl Bostick et Johnny Hodges. We'll be right back. En 1955, Miles Davis appelle John Coltrane dans son orchestre. Miles Davis raconte : plus vite que je n'aurais pu l'imaginer, la musique que nous faisions ensemble est devenue incroyable. C'était si bon que ça me donnait des frissons. 2 ans plus tard, le trompettiste chasse violemment le saxophoniste pour des problèmes de drogue. Thelonious Monk propose à Coltrane de rejoindre son groupe. Miles Davis l'engagera à nouveau jusqu'à ce que John Coltrane crée son propre quartet en 1960. McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones seront ses compagnons dans une épopée musicale de 6 ans. En 1961, Eric Dolphy, qui vient de publier le disque Free Jazz avec Ornette Coleman, intègre le groupe brièvement. John Coltrane a 35 ans. Sa musique au saxo ténor comme au saxo soprano bouleverse le monde musical. La rencontre avec Dolphy lui ouvre des perspectives nouvelles. Perpétuellement insatisfait, la fertile cohésion de son quartet devient pour lui un frein. En 1965, entouré de nouveaux musiciens, Il se lance dans une course contre tout ce qui bride son inspiration. Il reste discret sur le cancer qui le ronge. En moins de 3 ans, il a 3 enfants et enregistre une 20aine d'albums. Il meurt à 40 ans, le 17 juillet 1967.
Pour mettre pas les...